Merci Jérôme de me donner la parole. Avant d'attaquer mon sujet à proprement parler, je veux te remercier hein, pour cette occasion que tu me donnes de parler un peu des relations professionnelles en Côte d'Ivoire et remercier aussi Philippe hein, pour tout ce travail sur l'Afrique. Tout à l'heure, quand je vois Philippe, je vois un peu cet effort qui est fait hein, dans le sens des activités, de recherche. Sur les avancées, les évolutions, ce qui peut être fait en Afrique pour évoluer sur le droit de travail. Ceci dit, effectivement, mon propos de cet après-midi, c'est les relations professionnelles en Côte d'Ivoire, un état des lieux. Mais parler des relations professionnelles en Côte d'Ivoire, c'est en réalité toucher à ce que j'appelle le talon d'Achille des relations humaines. Surtout quand on se place du côté africain, du côté ivoirien. Pourquoi talon d'Achille? Tout simplement parce que il s'agit de toucher aux questions difficiles comme le vote, l'élection, la démocratie, le choix des personnes qui vont parler au nom des autres. Or, on sait très bien que quand on touche ces questions difficiles en Afrique, on voit bien c'est ce qui est au cœur de tous les conflits au niveau des États, au niveau des organisations. Donc, du coup, c'est un sujet important. C'est vrai que au départ, je n'avais pas voulu travailler sur ce sujet. Moi, j'avais voulu travailler sur la doctrine africaine du droit de travail, parce que je voulais réfléchir sur ces questions compliquées pour voir est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une doctrine africaine du travail. Bien, quand on m'a suggéré ce sujet, bon, je l'ai accepté parce que il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Mais pour parler du sujet, commençons par quelques petites définitions. C'est vrai, dans ce sujet, je n'aurai pas de difficulté à aborder les définitions puisqu'elles sont, je ne dirais pas simples, mais compréhensibles. Simples pourquoi? Parce que quand on se place du côté français, quand on parle de relations professionnelles, tout le monde sait ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que on va tout de suite sur les relations collectives. On ne pense même pas aux relations individuelles. Ce n'est pas la même chose en Côte d'Ivoire. Quand on parle de relations professionnelles, il est possible que le sujet soit un peu élargi, qu'on voit hein, les relations individuelles avant de voir ensuite les relations collectives. En France, on pense qu'on exclut les relations individuelles parce que ce lien ne renvoie pas à la fourniture du travail. Ceci dit, relations professionnelles, ce sont les relations qui se nouent entre organisations syndicales ou collectivités de travailleurs et employeurs ou organisations professionnelles. La notion de relation professionnelle, c'est donc les relations collectives. Mais faire le bilan, faire l'état des lieux, c'est faire le bilan, c'est-à-dire faire le point. Voir la question de l'existence de ces organisations professionnelles, le fonctionnement de ces organisations professionnelles, leur efficacité ou non. Dit ça comme ça, défini comme ça, on voit tout de suite l'intérêt ou les intérêts de ce sujet. J'en ai repéré au moins trois intérêts pour aborder ce sujet. Le premier intérêt, c'est qu'on pense que les relations professionnelles participent de la cohésion sociale hein, dans l'entreprise. Participent de la cohésion sociale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles réduisent l'inégalité consubstantielle aux liens contractuels. Sur ce point, par exemple, en ce qui concerne en Côte d'Ivoire, que peut un seul salarié devant la toute-puissance de l'employeur? On sait que en Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, l'employeur est le seul juge des conditions de travail. Il est considéré comme tout-puissant. Le salarié, c'est un bienfaiteur. Est-ce qu'il faut aller contredire ou discuter? Est-ce qu'on a des armes pour discuter avec lui? Et puis, on sait aussi qu'au regard de certains écrits hein, sur le droit de travail en Afrique, l'employeur, c'est un chef tout court. Et quand on parle de chef en Afrique, c'est quand même le dépositaire de toute une tradition de considération des choses qu'on ne discute pas. Et donc, c'est un sujet important parce que les relations professionnelles vont permettre, n'est-ce pas, je ne dirais pas remettre en cause cette conception de l'employeur et du salarié, mais permettre d'arracher à cet employeur-là tout puissant des choses pour le bien-être du salarié. Mais il y a aussi un intérêt, c'est que ces relations participent de ce qu'on va appeler la pacification des conflits, de règlement de conflits. Pacification, le mot est vraiment important parce que quand on regarde même l'histoire des relations professionnelles en Afrique, qui a commencé avec la colonisation, quand on donne par exemple l'exemple du décret du 11 mars 1937, n'est-ce pas, qui a autorisé la création des syndicats en Afrique noire, on a vu dès le départ, en réalité, les Noirs étaient exclus des relations professionnelles, puisque les conditions qui sont consacrées dans ces textes-là ne permettaient pas à ces derniers d'exercer ou en tout cas de participer effectivement à ces relations professionnelles. Il fallait pouvoir lire et écrire. Or, en 1937, je ne sais pas combien de Noirs savaient lire et écrire. Et puis, il y a aussi un décret du 20 mars 1937, de la même année, qui a évolué, qui a voulu revoir un peu ces conditions, qui permettaient à des Noirs d'être syndiqués, mais sauf que l'exercice, ou en tout cas la création de ces syndicats, était soumis à autorisation. Donc, pour dire que les relations professionnelles, leur histoire n'est pas une eau tranquille, c'est une eau suffisamment trouble. Mais un autre intérêt aussi pour s'intéresser à ce sujet, c'est qu'on croit que les relations professionnelles constituent un soutien de la compétitivité de l'entreprise. Va permettre à l'entreprise de produire. Deux exemples, peut-être pour montrer cela, car la dernière réforme du Code du travail, la réforme de 2015, qui a été qualifiée de bouleversement, de séisme, de refondation des droits des relations collectives, on voit un peu dans ce code-là, il y a une interdiction des piquets de grève, il y a aussi la consécration d'un service minimum en cas de grève, et tous ces éléments-là pour protéger l'outil de production. Ça, c'est un intérêt aussi qui est vraiment important. Et puis, mais quand on dit ça, donc le sujet, il est important, mais quand on dit ça, on va se demander, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut voir ici? Qu'est-ce qu'on veut traiter, effectivement? À ce niveau-là, la question, c'est de voir, est-ce qu'il existe des relations professionnelles en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il existe des syndicats de salariés, d'employés ou d'employeurs, pardon? Comment fonctionnent-ils? Est-ce qu'ils rencontrent des problèmes? La question est importante parce que quand on regarde la dernière réforme, qui est beaucoup appréciée, où on a pensé que c'est la première fois que des Ivoiriens ont participé à l'élaboration d'un code de travail, il y a eu plusieurs réformes. Je me suis amusé hier nuit à regarder un peu ces réformes et je me suis rendu compte qu'il y a au moins 16 articles qui ont été modifiés ou complétés en tenant compte, n'est-ce pas, de ces relations collectives, de ces... Je me suis amusé, l'article 10, par exemple, où désormais l'employeur doit remettre le code de travail aux délégués syndicaux. Ça n'existait pas auparavant. Quand on voit l'article 31.8, on voit là qu'il y a une consécration d'une obligation de négociation sur le SMIC, sur le salaire, ce qui n'existait pas auparavant. On peut continuer. L'interdiction des piquets de grève, le renforcement de la médiation, la création de la section syndicale, la définition d'un certain nombre de vocables, notamment les notions de syndicat de base, de confédération ou de centrale syndicale, de fédération syndicale. Et puis, un autre point important pour permettre aux syndicats de fonctionner, c'est le prélèvement des cotisations syndicales à la source. Il y a aussi la précision des missions du délégué syndical, puisque la section syndicale est créée. Il faut préciser les missions du délégué syndical, la composition, la mission du Conseil national du dialogue social, et puis le service minimum en cas de grève. Voilà un certain nombre de dispositions qui ont fait leur apparition de la Côte, qui font dire qu'effectivement, il y a une refondation à la matière. Mais Quand on regarde ça, pour répondre à la question qui nous est posée, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des syndicats, est-ce qu'ils fonctionnent, on voit très bien, oui, qu'il en existe. Donc, pour aborder et pour traiter le sujet, une première idée surgit. Cette première idée nous invite à voir quels sont les acquis. Hein, quels sont les acquis en matière de relations collectives, en matière de représentation collective dans l'entreprise. Quand on fait le point des acquis, on verra à peu près où en sommes-nous aujourd'hui. Mais faire le bilan ne signifie pas faire seulement le point, mais il faut aussi se prononcer sur les défis. Parce que quand on voit tout ça, on a l'impression que tout est rose. Mais est-ce que tout est vraiment rose? Et si tout n'est pas rose, qu'est-ce qu'il faut pour compléter? C'est ce que j'appelle les défis. Donc voilà ces deux moments que je vous propose pour discuter des relations professionnelles en Côte d'Ivoire. Donc, les acquis. Dans l'étude du sujet, deux acquis ont retenu mon attention. Deux acquis ont retenu mon attention. Le premier acquis, c'est qu'aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a des droits et libertés collectives en Côte d'Ivoire. Il y a des droits et libertés collectives en Côte d'Ivoire. Le deuxième acquis qu'on peut affirmer sans risque de se tromper, c'est qu'il y a une garantie des sanctions des atteintes portées à ces droits-là. Il y a une garantie des sanctions portées à ces droits. Discutons de ces éléments successivement. En ce qui concerne les droits et libertés collectives, y a un droit à la représentation collective. Il y a un droit à la représentation collective. Et il y a aussi un droit à l'action collective. Sur le droit à la représentation collective, il existe aujourd'hui une liberté syndicale qui est vraiment acquise. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a une liberté syndicale. Pourquoi? Tout simplement, la Côte d'Ivoire a ratifié la convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Et puis, au niveau interne, on peut voir aussi que la Constitution elle-même consacre cette liberté-là. La Constitution consacre cette liberté. Et puis, le Code de travail lui-même aborde, n'est-ce pas, dans plusieurs de ses dispositions, cette liberté syndicale. Enfin, il y a la Convention collective interprofessionnelle de 1977, dont l'équivalent existe dans tous les pays africains. On peut voir aussi clairement que cette convention collective, notamment son article 9, consacre, n'est-ce pas, la liberté syndicale. Mais dans l'explicitation de cette liberté, c'est surtout la réforme de 2015 qui mérite une attention particulière. La réforme de 2015 est allée plus loin en tirant, par exemple, les conséquences des velléités de l'administration qui avait tendance à confondre le régime des syndicats et celui des organisations soumises à autorisation. Donc, le texte, le Code de travail, précise très clairement que les syndicats sont des associations. C'est un mot qui passe inaperçu, mais il n'est pas anodin, parce que quand on dit que les syndicats professionnels sont des associations, c'est pour dire qu'il faut aligner les syndicats professionnels sur le régime des associations, qui est celui de la liberté et non celui de l'autorisation. Mais en le disant, il faut suivre de près le législateur qui finalement a constaté que, chemin faisant, l'administration avait tendance à faire dépendre, n'est-ce pas, la création des syndicats de quelques autorisations que ce soit. Mieux, le Code de travail de 2015. Dans le Code de travail de 2015, on donne les moyens aux syndicats de travailler. Parce que la syndicalisation, l'adhésion à un syndicat en Afrique, ce n'est pas une affaire facile à faire. Les syndicats n'ont pas les moyens de travailler. Et pour qu'ils aient ces moyens de travailler, les cotisations syndicales sont désormais prélevées à la source. C'est l'employeur qui les prélève. Donc, c'est une avancée importante. Sur le chemin de la liberté syndicale, il faut-il qu'il y ait un pluralisme syndical. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, au moment de l'indépendance, il y a eu un monosyndicalisme. On était sorti de la colonisation. Les dirigeants ont estimé que l'ennemi commun n'était plus, et que syndicats et politiques avaient désormais la même cause, et ayant la même cause, le même objectif, il n'y a pas lieu à contradiction, à opposition, à discussion, puisqu'on sait où on va, ce qu'on veut ensemble. Et ce qui a donné lieu à un seul syndicat, ce qu'on appelait une seule centrale syndicale, l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Il faut attendre 1990 pour que, n'est-ce pas, on ait, comment on appelle, ce pluralisme syndical, mais ce pluralisme syndical qui est aligné aussi avec le pluralisme politique, parce que c'est en 1990 que finalement, on a eu le pluralisme politique avec, il faut le dire,
la Gaulle.
Oui, la conférence de la Gaulle, avec surtout l'opposition en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, là, il faut le dire. Et ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, liberté syndicale, pluralisme syndical en Côte d'Ivoire. Pour finir avec cette liberté syndicale, il faut dire que le législateur a organisé, a remis en cause le désordre qui existait en ce qui concerne les organisations syndicales. Parce qu'on ne savait pas très bien qu'est-ce que c'était jusqu'en 2015, qu'est-ce qu'un syndicat de base, qu'est-ce qu'une fédération syndicale, qu'est-ce qu'une confédération ou centrale syndicale. Ces mots ont été consacrés et définis. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a cinq centrales syndicales. On a l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, du GTCI, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité, la Fédération des syndicats autonomes du Côte d'Ivoire, FESACI, la Centrale syndicale Humanisme, et enfin, travailleurs de Côte d'Ivoire, INATERCI. Voilà le propos qui me permet de finir avec cette consécration de la liberté syndicale. En Côte d'Ivoire, donc, il y a une liberté syndicale. Deuxième droit et liberté consacrée en Côte d'Ivoire, dont on est certain, c'est le droit à l'action collective. Le droit à l'action collective. Ce droit est acquis avec la ratification de la Convention 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective. Et la réforme de 2015 a procédé à une réorganisation des acteurs, au niveau de l'action collective, en précisant, par exemple, les instances du dialogue social, lesquelles doivent prendre part à la négociation collective. C'est l'article 111.1 du Code du travail qui précise cela. Et ce sont, on peut les citer, il y a la Commission consultative du travail, il y a le Conseil national du dialogue social et le Comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant la santé et la sécurité au travail. Et puis, toujours en ce qui concerne l'action syndicale, il y a eu pour la première fois où le législateur consacre une obligation de négocier, une obligation triennale de négociation des salaires. Ici, ce sont les SMIC, c'est le SMIC, le SMAG et le SMIC. Certes, en ce qui concerne l'action collective, il y a un gros problème en ce qui concerne l'action collective en matière de convention collective. Parce que depuis l'indépendance, il existe une seule convention collective interprofessionnelle. Et cette seule convention interprofessionnelle qui date de 1977 a eu son équivalent dans les autres pays africains où on parle de convention générale qui est applicable et qui est étendue à toutes les branches de métier. Et ça... Et en plus des conventions, de cette convention collective interprofessionnelle, il y a eu trois autres conventions collectives. Notamment la convention collective du personnel enseignant des établissements privés laïcs, et puis la convention régissant le travail des dockers et des dockers transit dans le port de la Côte d'Ivoire, et enfin la convention collective des journalistes professionnels et des professionnels de la communication. Et cette convention, qui est la dernière en date, comme le disait tout à l'heure Jérôme, elle date de 1984. Et jusque-là, plus rien. Et 1984, tout le monde sait très bien, nous sommes encore dans le parti unique. Or, dans le parti unique, c'est là où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de controverse. Donc, en réalité, autour de ces quatre conventions, finalement, que je viens de citer, il y a l'État derrière qui est le chef d'orchestre. Qui est le chef d'orchestre. Deuxième point à relever en ce qui concerne l'action collective, ce
Ce
sont
sont
les
les modalités de
modalités de règlement
règlement
des
des
conflits
conflits collectifs.
collectifs. Ce sont les modalités de règlement des conflits collectifs. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'action collective en Côte d'Ivoire, on peut affirmer que la Côte d'Ivoire a prévu les modes de règlement des conflits collectifs. Il y a d'abord les modes pacifiques de règlement de conflits, qu'on trouve aussi dans les autres systèmes membres de l'OIT, que sont la conciliation, l'arbitrage et la médiation. Il y a le second mode, plus conflictuel, c'est-à-dire la grève, qui est prévu que lorsque tout n'a pas marché, il y a la grève. Mais en ce qui concerne la grève, qui est un droit, il faut dire qu'elle est consacrée par la Constitution. Et à ce niveau-là, désormais, les piquets de grève sont interdits et il y a la consécration d'un service minimum en cas de grève. Les conditions d'application de ces textes sont précisées par l'article 82.2 du Code du travail. Je vous avais annoncé les acquis. Je vous avais dit en termes d'acquis, il y a d'abord les droits et libertés collectives. Le deuxième acquis qu'on peut affirmer, ce sont les garanties de la sanction des atteintes aux droits et libertés. À côté de la consécration de ces droits et libertés en place pour sanctionner effectivement les atteintes qui sont susceptibles d'être portées à ces droits-là. Il faut distinguer d'abord les sanctions judiciaires et ensuite les préconisations légales issues de la réforme de 2015. En ce qui concerne les sanctions judiciaires, il faut dire que tous les licenciements des salariés protégés doivent suivre une procédure particulière. Doivent suivre une procédure particulière. Et lorsque la procédure n'est pas respectée, les licenciements sont nuls. Et à propos d'exemples de sanctions, plusieurs hypothèses ont été relevées dans la jurisprudence. C'est-à-dire que le juge ivoirien sanctionne régulièrement ces licenciements des salariés lorsqu'ils sont fondés sur, premièrement, la participation à une réunion syndicale, les propos tenus au cours d'une réunion syndicale, les activités syndicales du salarié, le non-respect de la procédure de licenciement des délégués, l'expiration du mandat de délégué syndical, alors que la non-organisation des élections est le fait de l'employeur. Tous ces éléments montrent ici l'effectivité de la sanction en cas de violation des droits et libertés collectifs. Pour les préconisations issues de la réforme en termes de garantie, l'article 51.8 du Code du travail, issu de la réforme, dispose. Le travailleur, membre du bureau d'un syndicat professionnel, ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de syndicaliste. À travers cette disposition, c'est le revers de la médaille. Il ne s'agit plus de voir seulement du côté de l'employeur qui peut être perçu comme un bourreau, mais aussi il faut regarder du côté du syndicaliste qui peut utiliser sa casquette de syndicaliste pour profiter indûment d'un certain nombre de faveurs. Le législateur repère ces faveurs et tente de les sanctionner. Mais il va plus loin dans l'alinéa 2. Selon l'alinéa 2 de l'article 51.8, il dit ceci. Le secrétaire général ainsi que les 5 premiers secrétaires adjoints des organisations syndicales d'entreprise et des sections syndicales employées d'une entreprise ne peuvent être mutés contre leur gré pendant la durée de leur mandat sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Comment comprendre ces textes? En réalité, il y a un cantonnement, une limitation des membres des organisations syndicales, des dirigeants qui font l'objet de protection. C'est-à-dire qu'il y a des syndicalistes qui ne peuvent plus, qui ne font plus partie du périmètre de protection. C'est vrai que c'est une disposition très discutable. C'est-à-dire que même quand le salarié n'est pas membre du bureau et qu'on sait qu'il est syndicaliste, il est fort possible que l'employeur, n'est-ce pas, tire argument de cette qualité pour agir contrairement aux dispositions normatives. En conclusion, sur cette première partie consacrée aux acquis, on peut dire qu'un minimum existe. Il suffit simplement de songer à l'effectivité des dispositions en la matière. Parce que pourquoi j'entends régulièrement, oui, il faut encore consacrer des droits en comparaison notamment avec ce qui se fait en France. Oui, il faut consacrer tel droit qui a été consacré en France parce que ce n'est pas, c'est ça qui veut. Non, je pense qu'ici, ce minimum permet de l'avant, permet d'aller de l'avant et il faut simplement songer à la mise en œuvre effective de ce dispositif. Je vais parler maintenant des défis. Je vous avais annoncé les deux mouvements, les acquis et les défis. Quels sont les défis? Au moins deux défis. Au moins deux défis. Le premier défi qu'il faut régler, c'est d'abord la culture de la démocratie à l'occidental. Le défi, la culture de la démocratie à l'occidental. Et le deuxième défi, c'est l'énigme de la politisation excessive des syndicats. La culture de la démocratie à l'occidental, dans les relations collectives, les relations professionnelles, il y a des mots clés, des catégories clés qui reviennent. Il s'agit du dialogue social, il s'agit de la négociation collective. En réalité, à l'analyse, ces mots ne sont pas suffisamment compris ou reçus en Afrique. Pour cela, j'ai regardé, par exemple, la définition de la négociation collective qui n'apparaît pas tout de suite dans les textes. J'ai pris une définition des économistes. L'auteur, il s'appelle Lionel Bélanger, c'est « Stratégie et tactique des négociations ». Il dit ceci, concernant la définition de la négociation collective, de la négociation tout court. Il dit « La négociation est une confrontation de protagonistes étroitement interdépendants, liés par un certain rapport de force » et présentant un minimum de volonté d'aboutir à un arrangement en vue de réduire un écart, une divergence, afin de construire une solution acceptable au regard de leurs objectifs et de la marge de manœuvre qu'ils s'étaient donnée. La négociation, le dialogue social, nécessite une bonne dose d'humilité, une bonne dose de compréhension de l'autre. Ces éléments, de mon point de vue, n'existent pas chez l'employeur en Afrique, qui est encore sur un piédestal et qui ne considère pas le salarié comme son équivalent, son égal, avec qui il peut aller en négociation. Et comme on l'a vu en France, il préfère payer le prix que, selon lui, de se faire humilier jusqu'à un certain point. Le défi consiste donc à nous approprier en Afrique les concepts du dialogue social. Qu'est-ce que le dialogue social? Ce n'est pas le dialogue social en Afrique, à l'africaine, où on me brandit parfois l'exemple de l'arbre à palabre, qui n'a rien à voir avec la démocratie à l'occidentale. En réalité, la démocratie à l'africaine, convoquée à l'aune du dialogue de l'arbre à palabre, n'a rien de démocratique. Quand on arrive sur l'arbre à palabre, on vient valider une décision déjà prise. Et quand on arrive sur l'arbre à palabre, tout le monde ne prend pas la parole. Et surtout, les femmes elles-mêmes ne prennent pas la parole. Elles sont informées, elles restent derrière. On les informe après de ce qui a été pris comme résolution. On nous explique que parfois, non, le chef en Afrique, il ne prend jamais une décision seul. La nuit, il va voir les autres pour discuter. Mais dans tous les cas, il décide seul. Il se fait conseiller, mais il décide seul. Ça n'a rien à voir avec le concept de démocratie où tout le monde se voit et affiche les positions, et finalement on tranche soit par rapport à la loi de la majorité, soit par rapport à d'autres mécanismes suffisamment expliqués et suffisamment connus de tous. La culture de la démocratie manque. Il faut, n'est-ce pas, songer à la réception de ces catégories-là pour prétendre voir évoluer le droit des relations professionnelles en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Le deuxième point qui est important en ce qui concerne la culture de la démocratie, c'est l'équation de la représentativité. Les organisations syndicales ont un problème de représentativité. Et c'est le propos que j'ai avancé au tout début avec les difficultés qu'on a en Afrique, avec les vocables comme l'élection, le vote, le remplacement des uns et des autres. Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, depuis 4 ans, toutes les 4 centrales syndicales estiment qu'elles sont représentatives. Et aucune de ces centrales syndicales ne va aux élections. Pourquoi ? Parce qu'elles obligent ainsi l'État à discuter avec toutes les organisations représentatives, avec toutes les organisations en place. Mais derrière ce subterfuge, on refuse, on sait pertinemment qu'on n'a pas des adhérents, suffisamment d'adhérents, pour voter. Et avec l'importance du secteur informel, la question se pose de savoir, est-ce que les salariés du secteur informel doivent voter, doivent participer aux élections? Donc, ici, il y a un refus de passer à la loi de la démocratie, et finalement, qui oblige l'État, en matière de négociation, de convoquer toutes les centrales syndicales et de discuter avec tout le monde. Mais la conséquence, c'est que l'État aussi propose parfois ce qu'on appelle la trêve sociale. Mais la trêve sociale, je ne dirais pas qu'il y a une aberration, qu'il y a une façon de tricher avec les relations professionnelles. Parce que la trêve sociale qui a été signée depuis 2016 et qui dure sur 5 ans, qui va prendre fin bientôt, demande aux organisations syndicales de ne pas faire grève. Mais pourquoi ne pas faire grève? Puisque la grève n'est pas faite pour le plaisir de la grève, mais c'est pour des revendications. La question n'est pas en soi la grève, mais c'est ce que revendique la grève ou ce que proposent les négociations collectives. Et du coup, en la matière, on voit bien ce qui est derrière parce que l'État propose 800 millions à toutes les centrales syndicales chaque année et les dirigeants préfèrent se contenter de ces sommes et refusent d'aller aux élections. Donc, il y a un vrai problème de représentativité qui remonte encore à la question de la démocratie. Les mandats sont expirés, on ne fait pas de nouvelles élections et les anciens dirigeants restent sur place. C'est un gros problème qu'on doit pouvoir régler en ce qui concerne les relations professionnelles en Afrique. Dernier défi, l'énigme de la politisation excessive des syndicats en Afrique. La politisation excessive des syndicats en Afrique. Avant d'aller plus loin, un premier constat. Quand on regarde les 5 centrales syndicales auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, notamment l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, la Fédération des syndicats autonomes, la Centrale syndicale humaniste, et puis l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, il est possible de mettre une étiquette politique devant chaque organisation syndicale. Il est possible de mettre une étiquette politique devant chaque organisation syndicale. On peut essayer, si vous voulez bien. Quand on prend, par exemple, l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, pendant longtemps, c'est le PDCI qui est derrière cette organisation syndicale. Quand on prend, par exemple, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, qu'on appelle Dignité, c'est le FPI, l'opposition, qui est derrière, n'est-ce pas, la naissance de ce mouvement. Quand on prend la FESACI, il y a une évolution. Au début, c'est l'opposition, mais en réalité, depuis des épisodes judiciaires, certains pensent que derrière cette organisation syndicale se trouve ce qu'on appelle le RHDP, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Où il y a un peu de trouble, c'est une ATERCI. Mais derrière une ATERCI, il faut voir aussi l'opposition. Donc en Côte d'Ivoire, il y a une forte politisation des syndicats. Mais Après ce constat, qu'est-ce qu'on peut dire? Deux éléments. Premier élément qui sera l'objet de notre propos, c'est de se demander est-ce qu'il est possible de retirer la politique du milieu des syndicats. Dans cette première idée, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut séparer le syndicalisme de la politique. Je ne crois pas. Pourquoi? Tout simplement, l'histoire du syndicalisme ivoirien même nous prouve qu'il y a toujours eu un chemin commun entre le politique et le syndicat. Le premier exemple qu'on va citer, c'est l'exemple de M. Félix Houphouët-Boigny, qui a été, pendant l'époque coloniale, député en France, qui a créé le syndicat agricole africain. C'est parce qu'il était député en France, donc suffisamment fort à un moment donné, qui lui a permis de créer le syndicat agricole africain. Et c'est justement, c'est cette casquette politique qui lui a permis de gagner de grandes batailles, notamment la loi du 11 avril 1946, qui a permis, n'est-ce pas, l'abolition du travail forcé dans les colonies d'Afrique noire francophone. Un autre exemple pour dire qu'il est difficile de séparer syndicats et politique, c'est juste après le code de 1952, il y a eu la création d'un syndicat. Et ce syndicat, c'était un syndicat africain qui avait été créé à l'époque à Cotonou, qu'on appelle l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. C'est un syndicat qui était créé en 1957. Mais ce syndicat, c'était un véritable instrument politique. Pourquoi? Tout simplement parce que son action s'inscrivait, et je cite, dans la lutte des travailleurs des pays sous-développés pour la libération de ces derniers et pour la liquidation du régime colonial. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, des intérêts professionnels qu'on va régler. Et puis, dernier exemple, la domestication des syndicats dans tous les États africains, dont la Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances. On vous dit non, il n'y a plus de revendications corporatistes, professionnelles à faire. Nous avons vaincu l'ennemi commun qui est le colon. Il s'agit maintenant de se mettre ensemble pour aller de l'avant. Or, on sait très bien que les intérêts de l'État ne sont pas les mêmes que les intérêts de l'entreprise. Et les intérêts de l'État ne sont pas les mêmes que les intérêts du salarié. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il est inutile de dire qu'il faut séparer le politique et le syndicat. En revanche, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut souhaiter et ce à quoi il faut travailler, c'est de dire que les syndicats doivent utiliser leur dimension politique au service de la défense des intérêts collectifs et des intérêts des salariés. Ça, on le voit souvent en France, je viens de décrire le tableau en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas sûr, je n'irai pas loin parce que j'ai deux Français qui m'entourent, je ne suis pas sûr que les organisations syndicales n'aient pas des étiquettes politiques. Ils me diront, parce qu'ils sont là, mais je ne suis pas vraiment sûr. Mais l'objectif ici, c'est de voir comment les syndicats peuvent utiliser ce que j'appelle cet atout politique pour avancer. Et dans le même ordre d'idée, j'ai discuté récemment avec un responsable du dialogue social en Côte d'Ivoire. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'au Sénégal, le Conseil national du dialogue social arrive à obtenir des résultats et que chez nous, il n'arrive pas? Parce que j'entends dire qu'au Sénégal, le Haut Conseil national du dialogue social prend des décisions et qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil national du dialogue social ne prend que des avis, Il me dit non, les deux institutions ont la même nature, je le dis. Et pas seulement les deux institutions dans ces pays, mais ces institutions en Afrique de l'Ouest ont pratiquement la même nature, je le dis. Ce qui change, ce sont les hommes. Ce qui change, c'est la force politique des hommes. Et il explique comme ça, quand vous voyez la présidente du Haut Conseil national du Sénégal, elle a été ministre en même temps que le président actuel dans le gouvernement de Wade. Et donc, une telle femme, quand elle prend des décisions, rend des avis, elle peut faire avancer des choses, elle peut trouver de l'argent pour faire avancer des causes. Voilà, c'est quelques élucubrations qui m'inspirent quand j'ai eu l'occasion d'avoir cette proposition de sujet, qui n'était pas mon sujet au départ, mais je me suis efforcé parce qu'il y a suffisamment de choses à dire. Et voilà ce que j'avais envie de dire. Merci encore, chers amis, de cette occasion que vous m'offrez. Merci encore.
Merci beaucoup, Daniel.